Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bienvenue dans Radio Foot International, dans cette émission qui vous parle de football. Aujourd'hui, nous avions annulé notre café des sports, le fameux café des sports où s'opposent chaque semaine Xavier Barré et Rémi Ngono. C'était pour la bonne cause, c'était pour faire la place au président de la Confédération africaine de football, le président Hamad, qui a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à expliquer encore autour de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais une quarantaine de minutes, on va dire, de l'antenne, comme on dit entre nous, eh bien, on a su que le président Hamad n'avait apparemment pas décollé, vraisemblablement du Caire, et donc il ne pourrait être dans l'émission. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment désolés et nous allons essayer de vous informer autour de toutes ces incertitudes autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cela, j'ai appelé tout le service des sports en renfort. Alors, Alejandro Valente, le réfé, est là, mais plutôt dans son rôle aujourd'hui de chef des sports. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Christophe Jousset. Bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis il y a aussi Olivier Pron qui est rentré du Ghana et qui a encore plein de choses à nous dire, j'en suis sûre. Bonjour Olivier.
Oui, j'aurais été ravi de croiser le président Hamad avec un temps un peu plus clément et moins chaud. Bonjour à tous.
C'est vrai que
tous.
Ça fait un peu fin du monde derrière la vitre. Et puis, alors on a battu le rappel, Hervé Penaud a traversé le pont puisque l'équipe est maintenant notre voisin pratiquement. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour, plaisir d'être là, mais j'aurais bien aimé voir le président Hamad, effectivement.
Oui, on aurait tous aimé. Derrière la vitre, il y a aussi tous ceux qui se mobilisent, Eric Mamrut, Hugo Moissonnet, Pierre Guérin, David Calfa et aussi Laurent Salerno. Alors, nous allons parler de cette prochaine CAN, s'interroger tous ensemble, puisque dans 180 jours, à peu près, on a compté, ça sera le 15 juin prochain, doit être donné le coup d'envoi de cette compétition. Où se disputera-t-elle ? Les hypothèses, évidemment, sont pas si nombreuses, on va en parler. Qui en Afrique peut accueillir ce genre de compétition si importante, désormais, à 24 équipes ? Et puis surtout, le Cameroun pourra-t-il participer à la fête ou pas ? Sera-t-il dans le groupe des qualifiés? Ce sont toutes les questions qu'on va se poser tous ensemble aujourd'hui. Radio Foot, c'est parti.
Vincent Aboubakar, la deuxième sont derrière. La reprise, but de Vincent Aboubakar. À 3 minutes de la fin, le Cameroun qui passe devant. Oh, le joli geste tactique. Et le Cameroun qui passe devant. 2-1 à 2 minutes de la fin.
Dans la sauce. Aujourd'hui, je suis content, le Cameroun monte à 5 étoiles.
Face à tous ces rapports que nous avons reçus, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun.
Bah moi je suis déçu, complètement déçu, je sais même pas quoi dire. En fait nous on attendait cette CAN dans notre pays, on était tellement émerveillés.
Oui, je pense qu'avec le repris de cette CAN, le Cameroun devrait porter plainte.
Ça fait mal, je le savais pas, je sors du travail, on m'annonce une nouvelle comme ça. Ça fait mal, bon moi j'ai pas de mots à dire, je suis déçu vraiment.
Je suis Camerounais, ça me va très mal au cœur. Malgré tous les efforts que nous avions fournis, bon on va continuer à travailler, on ne serait pas fatigué. Si Dieu voulant, on aura toujours une CAN à organiser.
Et voilà, le Cameroun a donc été dessaisi il y a exactement une semaine. C'était la réunion du comité du COMEX, comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était il y a exactement 8 jours et c'est vrai que ce fut une déflagration sur le continent africain, même si ce n'était pas une énorme surprise, mais évidemment énormément de flou aussi autour de cette décision, parce que la question qu'on se pose tous, c'est quel pays peut accueillir cette CAN dans 7 mois, y a-t-il surtout déjà des candidats? Puisque la Confédération africaine, dès hier soir, Olivier, a sorti un communiqué où elle explicite très précisément le cadre de son appel à candidature.
Elle formalise ce que l'on savait déjà, on avait entendu que ça pourrait se passer comme ça. On savait que depuis vendredi, le président Hamad avait annoncé qu'il y aurait un cabinet d'audit qui serait mandaté dès le samedi matin pour travailler pendant un mois et qu'avant la fin du mois de décembre, on connaîtrait le pays hôte de la prochaine CAN. Ce que l'on sait depuis hier, c'est que les pays qui veulent être candidats ont jusqu'à samedi prochain pour le faire, c'est-à-dire le 15 15 décembre, c'est bien ça, samedi prochain. C'est-à-dire qu'il reste encore 8 jours.
C'est-à-dire le 14 à minuit.
Voilà, et qu'on peut faire le point rapide. On sait que l'Égypte n'ira pas. On suppose que le Maroc et l'Afrique du Sud vont y aller, mais pour l'instant, à 8 jours de l'échéance, personne n'est officiellement candidat.
L'Algérie a déjà fait savoir qu'elle ne serait pas candidate également.
Il y a aussi, à partir du 15 décembre, dès le samedi, la Confédération qui annoncera la liste des pays qui auront été présélectionnés.
Après, il y aura des visites, évidemment.
Voilà, il y aura des demandes de complément d'informations, précise la Confédération. Et puis, une fois les évaluations finalisées, eh bien, le comité exécutif, de nouveau, le COMEX, devrait décider du choix. Et cela devrait se faire avant le 31 décembre.
Qu'il ne décide de rater l'avion du Caire. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Maintenant, faut bien reconnaître qu'à la CAF, ces dernières minutes, on peut douter de ce professionnalisme-là.
Je veux pas chercher la petite bête, mais cette date du 31 décembre, qui était très claire la semaine dernière, n'apparaît pas.
C'est vrai.
Dans
sur le communiqué
qui est publié hier soir sur le site internet de la CAF. Alors, c'est peut-être juste un oubli, mais dans la mesure où le principe même de ce communiqué est de faire la chronologie de ce qui nous attend, voilà, c'est une date qui manque.
Bon. Depuis 8 jours, il a toujours été dit fin décembre, voilà. Mais sans préciser la date.
En tout cas, Hervé, on voit que ce qui est entériné, c'est que cette CAN 2019, qui se tiendra, écrit la CAF, cet été 2019, l'été en France.
Oui, effectivement, si on parle d'un été pour l'Afrique, ça fait un petit peu sourire. Alors ça voudrait dire que donc l'Afrique du Sud ne l'aura pas. Parce que malheureusement, c'est en hiver, là-bas. Donc si c'est l'été, vous avez déjà le gagnant, c'est le Maroc, il n'y a pas de souci. Non, je trouve un peu étonnant d'avoir fait cette petite erreur de sémantique, parce que, on parle pas d'été ou pas d'été, évidemment, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, au sud, l'été, c'est le contraire, c'est l'hiver.
Et d'ailleurs, on a
les
une coupe du
monde
inversées.
En plein hiver, les saisons sont inversées, évidemment.
Est-ce que ça ne veut pas dire simplement que ça ne sera pas les mêmes dates?
C'est ça.
Ils sont prévus 15 juin, 13 juillet.
On est toujours, alors, on va poser les questions, puisqu'on a le président Hamad devait être là pour répondre à nos questions, mais que le président Hamad n'est pas là. Eh bien, les dates officielles annoncées par la CAF, c'est du 15 juin au 13 juillet prochain. Et là, dans le dernier communiqué, encore une fois, sur le site internet de la CAF, on parle de l'été prochain. Est-ce que ça veut dire que ces dates sont modifiables en fonction du pays qui sera finalement choisi ou pas? Voilà.
Oui, parce que là, il faut bien se rendre compte que ce qui vient d'être annoncé, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on vous dit on va avoir une commission d'inspection qui va aller sur les différents sites. Mais vous imaginez pas quand même que s'il y a une commission, alors elle redise non une nouvelle fois. C'est pas possible, il n'y a pas de CAN. C'est relativement simple. Et comme le football africain vit à travers la CAN, donc il y aura une CAN. Donc ça veut dire que ceux qui vont se présenter, de fait, sont sûrs de l'avoir. S'il y en a deux, il y aura un combat. S'il y en a qu'un, il est sûr de l'avoir. Déjà, ce sont des pays qui ont un minimum d'infrastructures. Parce qu'on se doute qui va se présenter ou qui peut se présenter, et on se doute même déjà peut-être qui sera le vainqueur.
Oui.
Mais donc le Maroc, on sait que le Maroc a toutes les infrastructures, les hôtels, etc., etc. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de mission d'inspection, parce que de toute façon, il faut bien la donner, la CAN.
Puis ils ont fait le Tchad récemment, et c'est vrai que
attention, c'est pas pareil. 24 équipes, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais le Maroc peut tout à fait l'organiser. L'Afrique du Sud aussi peut tout à fait l'organiser. Mais c'est pas parce que vous pouvez l'organiser que vous allez bien l'organiser, parce qu'il reste que 6 mois. Mais 6 mois, c'est très peu. Ce qu'il faut se rendre compte, ce que c'est l'organisation d'une compétition, parce que ça demande quand même un COCAN qui soit déjà très très structuré, et c'est pas si évident que ça.
Et il faut ajouter quelque chose d'important, c'est que l'Afrique du Sud, ça c'est ce qui m'a été dit la semaine dernière à Accra, l'Afrique du Sud, pour organiser une telle compétition, est obligée de passer devant le Parlement. Ça doit être approuvé par le Parlement, et apparemment, les délais imposés par la CAF, qui sont anormalement courts, mais finalement assez logiquement, parce qu'il y a urgence, ne permettraient pas à l'Afrique du Sud de faire valider cette candidature par le Parlement, par l'État sud-africain. Donc voilà, c'est sans doute pour ça que les Sud-Africains hésitent, ils ne se lancent pas dans la bataille. Quant aux Marocains, c'est leur choix, ils sont tellement archi-favoris que finalement, ils peuvent même se décider vendredi prochain à 23h50.
Et s'ils ne se présentaient pas,
les Marocains,
formellement,
eh ben en France,
pour ne pas prêter le flanc aux critiques,
on les présenterait.
Pour ne pas, voilà, si on leur, si il n'y a
allez,
aucun...
venez
ouais. Imaginons. Pourquoi pas ? On en est à un point dans cette histoire de CAN 2019 qu'on peut envisager toutes les hypothèses. Imaginons que le Maroc voit qu'il n'y a personne en face, pas l'Afrique du Sud, pas l'Égypte, pas l'Algérie, et que le délai arrive. Pour éviter d'alimenter cette idée qui veut que depuis le début de l'histoire, c'est le Maroc qui doit récupérer cette CAN, il pourrait mettre la CAF dans la position de désigner le Maroc.
Christophe,
le sourire, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, hein.
Le sourire de Fouzi Legja, vendredi, en sortant à 16h, heure d'Accra, du comité exécutif, ne laisse planer aucun doute. Et la présence en masse des médias marocains, qui étaient si bien informés par l'intéressé lui-même dans la matinée, me laisse
penser. Ça ne changerait pas la fin de l'histoire. Ça irait au Maroc. Ouais. Mais simplement, c'est dans la façon de faire que ça pourrait.
Peuvent-ils aller jusque-là?
Est-ce que le Maroc pourra se faire prier afin de ne pas donner l'impression d'être un plan B
Ce serait particulièrement malvenu. Je ne sais pas s'il y a des conseillers en com de ce côté-là, mais non, c'est inimaginable. Enfin, on voit que les conseillers en com ne sont pas les payeurs ces dernières heures.
Un ancien sélectionneur d'Afrique est en ligne avec nous actuellement et on va lui demander son avis. C'est Alain Giresse. Bonjour Alain Giresse.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui, toutes ces questions qu'on se pose autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous avez entraîné bien des sélections du côté de l'Afrique. Hein. Je citerai le Gabon, le Sénégal, le Mali aussi. Et la question aurait été de savoir, vous, comment vous voyez ce flou autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et deuxième chose aussi, cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera avec 24 participants.
Voilà, alors le flou actuel par rapport donc à l'éviction du Cameroun, il faut peut-être remonter un petit peu dans l'histoire, c'est-à-dire que quand vous prenez toutes les CAN qui se disputaient avec des équipes sur 4 sites, 4 villes, moi, j'ai fait 4 cannes. Hein. J'ai pas fait 4 cannes. Et est-ce que vous vous souvenez un petit peu de tous les problèmes que les uns et les autres ont subis en ce qui concerne déjà les moyens d'entraînement, d'hôtellerie, etc., qui avaient, je dirais, à la limite, on passait sur 2 villes, on arrivait à avoir des bonnes conditions, mais après, c'était toujours des gros problèmes. Donc, c'est un élément dont on n'a pas tenu compte pour passer avec notre équipe et de se dire... À 4, il y avait déjà beaucoup de difficultés. On passe à 6 villes et ça devient encore un peu plus compliqué. Alors après, qu'est-ce qu'il en est exactement et concrètement par rapport à l'élimination du Cameroun? Je ne sais pas. C'est sûr qu'ils ont enclenché des travaux. Mais est-ce que le Cameroun allait être capable, en temps et heure, de pouvoir présenter 6 villes? Ça représente 6 stades. Ça représente un complexe hôtelier dans chaque ville pour pouvoir suivre les 4 équipes, des conditions d'entraînement, et demander à n'importe quel sélectionneur ce qu'il a pu vivre, c'est des aventures. Ce qui était extraordinaire, c'est que vous étiez qualifié pour une CAN, et vous alliez à une phase finale, et là, au lieu de se dire qu'elle va se dérouler sans encombre en ce qui concerne les conditions requises pour les équipes, eh bien, c'était toujours des problèmes que l'équipe vivait. Donc, voilà. Je crois que la CAF est allée un petit peu vite en passant à 24 équipes. Ceci dit, c'est la même chose pour moi quand on va passer à 48 équipes pour la Coupe du Monde. Combien de pays seront capables d'accueillir une Coupe du Monde à 48 équipes?
Vous en voyez des pays en Afrique qui pourraient accueillir une CAN à 24, vous qui connaissez différents pays et les infrastructures?
Déjà, là, sans eux, ils n'ont même pas un coup de peinture à mettre, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Je sais qu'on parlait donc de l'Afrique du Sud, il y a besoin des accords du gouvernement. Si on parle à moyen d'infrastructure hôtelière, stade, conditions d'entraînement, oui, le Maroc et l'Afrique du Sud, ils ont déjà tout en place.
Oui, donc ça serait effectivement parmi les favoris pour la prochaine édition. Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir donné votre impression sur cette décision qui a été prise par la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Le président Hamad n'est pas là, mais son vice-président nous a rejoint aujourd'hui. Il est rentré sur la pelouse, alors on le présente. Monsieur Constant-Marie, bonjour.
Bonjour Annie.
Merci beaucoup de venir participer à Radio Foot International aujourd'hui. On avait décidé de consacrer cette émission à la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine, et surtout à cette importante décision qui a été prise par votre confédération il y a quelques jours. Alors, si vous voulez bien, vous allez vous prêter à la question puisque on en a beaucoup à vous poser.
Rassurez-nous, le président Hamad n'est pas souffrant.
Non, c'est pas.
Il n'a pas eu peur de nous?
Non, c'est pas un problème de peur. Il y a eu un retard d'avion. Il y a eu un retard d'avion et vous savez que.
Il vient d'où?
De l'Égypte. Mm-hmm. Il vient de l'Égypte. parce qu'il était en Érythrée, le temps de passer aussi en Égypte. Il y avait des dossiers, des urgences à traiter là-bas.
Mais il savait qu'il venait chez nous, normalement.
Il était prévu, puisqu'il m'avait prévenu qu'il sera là aujourd'hui, et qu'il y a un retard d'avion, qu'est-ce que vous voulez ? À l'impossible, il l'était nu, hein.
Bon alors Monsieur Omari, ça fait exactement une semaine que le Cameroun a appris qu'il n'organiserait pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les questions se posent, mais on voulait d'abord vous poser la première. Y a-t-il déjà des pays candidats pour organiser cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations à 24 ?
J'ai croisé tout à l'heure le secrétaire général adjoint chargé du football. Monsieur Anthony Bafoué, qui m'a dit que nous avons non seulement Roland Berger, que nous avions chargé de pouvoir lancer les appels à candidature.
Le cabinet
Laurent Berger d'audit, que vous connaissez très bien, avait déjà lancé, et que avant même que Laurent Berger ait lancé cet appel à candidature, je crois qu'il y a déjà un qui a écrit, le Congo-Brazzaville, qui a écrit. Et il m'a dit tout à l'heure, quand je partais, qu'il y avait une deuxième candidature, mais qu'elle allait m'en parler, en long, en large et à mon retour. Voilà. Mais à partir du moment où c'est Laurent Berger qui s'occupe de cela, nous ne pensons pas être en mesure de pouvoir venir divulguer toute la liste ici, parce que nous avons chargé le cabinet d'audit de faire...
Et il y a encore 8 jours pour recevoir les candidatures.
Effectivement.
Ça veut dire que le Congo-Brazzaville est formellement candidat ou qu'ils ont juste manifesté leur intérêt ?
Selon ce que j'ai appris tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils ont envoyé la candidature aussi.
Alejandro Valente ?
Oui, donc cette organisation pour 2019 semblait promise quand même au Maroc. En tout cas, c'est la rumeur qui circulait depuis longtemps. Monsieur Hamad avait dit qu'il n'y avait pas de plan B. Mais beaucoup de gens ne sont enclins à le penser. Beaucoup, comme M. Pape Diouf, disent que M. Hamad, étant le printemps des Marocains, ça va aller au Maroc. Enfin, il dit de façon désagréable ce que beaucoup de gens imaginent. Est-ce que vous pensez que le Maroc sera candidat ?
Je vous suis très gré d'évoquer le nom de Pape Diouf. J'aurais bien souhaité qu'il soit sur le plateau pour pouvoir lui répondre d'abord sur ces écarts de langage prononcés à partir des bureaux climatisés de Canal+. Mais je pense qu'il est, même quand on est acculturé, il faut quand même accepter que l'Afrique doit avoir des ambitions. Pas ce qu'il a dit, que c'est pas une euro, c'est pas telle chose, tout ça là, Amadé dans les pantins. Je crois que ce sont des propos vexatoires. Il faut une mise au point d'abord. Ce sont des propos vexatoires. Et qui sortent de quelqu'un comme lui, ça nous étonne. Qu'à cela ne tienne. Le Maroc, dont on parle tant, le Maroc a été candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. N'est-ce pas ? Qu'on le sache. Ensuite, officiellement, le Maroc n'a pas encore fait acte de candidature déposée à la CAF. Ce sont des supputations. Ce sont des supputations. Je crois que tout à l'heure, quand nous suivions Alain Giresse, en parlant des pays favoris, il a cité l'Afrique du Sud et le Maroc. Ça signifie que ne nous prête pas des intentions qui ne sont pas les nôtres. À partir du moment où l'un cahier des charges est là, et c'est le cabinet d'audit Laurent Berger qui va s'occuper de toutes les opérations. C'est elle qui va préparer la shortlist et les cotations. Bon, comment peut-on dire au même moment nous payons de l'argent? Ça nous coûte excessivement cher.
Oui, les mais monsieur Berger, Omari, quand
et
même.
De dire qu'on a promis ça au Maroc, je ne sais pas, ça date de quand?
Mais monsieur Omari, une CAN à 24, l'Afrique n'a jamais organisé ça. C'est quand même une organisation complexe qui requiert quand même beaucoup de moyens. On est à 6 mois pratiquement du coup d'envoi de cette compétition. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres pays peuvent...
Même une candidature du Congo-Brazzaville, ça semble très, mais très,
il faut
très
d'abord,
étonnant.
Écoutez, il faut d'abord partir d'un principe. Peut-être beaucoup de gens ne font pas attention. Cette CAN à 24 n'est pas sortie comme ça de la tête d'Hamad en tant que président. Bien sûr que tout le monde voit le président parce que c'est lui qui engage officiellement la Confédération. La CAN à 24 part de l'idée d'un débat de symposium qui est organisé par le football africain au Maroc.
En juillet 2017.
Voilà, juillet 2017.
Ça fait un peu plus d'un an.
Voilà. auquel tout le monde a participé, tous les acteurs du football africain ont participé. Et la conclusion, c'est qu'il fallait passer de 16 à 24 pour essayer de valoriser cette compétition et accroître les conditions techniques organisationnelles pour commercialiser, rendre cette compétition beaucoup plus commerciable. Ce sont des ambitions, c'est un défi, n'est-ce pas ? Alors, à partir de ce moment-là, le comité exécutif a pris la décision, matérialisant une des conclusions du symposium. Nous avons pris cette décision, et si j'ai bonne souvenance, le même jour, pendant que nous prenions la décision, je suis sorti de la salle, j'ai reçu un coup de fil du ministre camerounais du sport, qui confirmait qu'il venait d'apprendre que nous passions de 16 à 24, et que le Cameroun était partie prenante, et que le Cameroun s'engageait à organiser cette coupe à 24. Donc, je pense qu'il faut situer cela en termes d'ambition. L'Afrique a le droit d'avoir des ambitions aussi. Et que si cette CAN peut permettre à ce qu'on améliore les infrastructures dans un certain nombre de pays africains, il y a toujours des pays locomotives qu'on ne peut pas se leurrer, mais vous n'oubliez pas qu'il y a aussi la co-organisation.
Qui peut être oui, là. Hervé Penaud.
Oui, le problème du fameux symposium, c'est effectivement d'être passé de 16 à 24. Alors que les candidats précédents, soit le Cameroun, Côte d'Ivoire, alors la Guinée n'était pas candidate, mais elle s'est retrouvée à récupérer la CAN, mais ils avaient une CAN à 16 équipes. Et d'un seul coup, on passe à 24. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne ?
Il y a certains qui pensent que nous sommes allés trop vite en besogne. Mais il faut quand même poser la question aux mêmes prétendants. À l'époque, quand nous sommes partis de 16 à 24, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, tout le monde a confirmé qu'il était en mesure de le faire.
Oui, mais aujourd'hui, le Cameroun n'est plus en mesure de le faire.
Écoutez, le Cameroun n'est pas... Non, il ne faut pas dire que le Cameroun n'est pas en mesure de le faire, non. Le Cameroun est en retard de le faire. Situons bien les choses. Il ne faut pas dire que le Cameroun n'est pas en mesure de le faire. Le Cameroun est en retard de le faire.
La Côte d'Ivoire est en retard de le faire aussi, d'après la CAF.
Effectivement, ce n'est pas d'après la CAF. Je voudrais que nous confirmions par des données techniques, n'est-ce pas ? Je vous mets au défi d'aller aujourd'hui en Côte d'Ivoire et voir quels sont les chantiers lancés déjà pour cette échéance. Et vous comprendrez que...
Mais est-ce qu'il y a eu des missions d'inspection qui sont déplacées ?
Il y a la première mission qui est allée en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, d'ailleurs, malheureusement, parce que c'est la radio, j'ai amené une clé USB ici. Je serais arrivé avant, vous aurez pu voir, parce que tout est filmé. Tout est filmé pour que vous constatiez que c'est purement un retard d'infrastructure.
Ça montre bien les difficultés d'organiser la 24.
C'est pas que les difficultés, le retard des chantiers. Le Cameroun s'est engagé à organiser à 24, mais le Cameroun connaît un retard de chantier. Raison pour laquelle la CAF a estimé que pour lui permettre de finaliser cette approche structurelle des chantiers des 24, de pouvoir lui donner 2021.
Mais alors, ça veut dire que c'est quand même la première fois qu'on applique ce tournoi à 24. Et le premier test commence par une situation très compliquée. On est obligé, vous êtes obligé, de retirer la CAN au Cameroun. Ça veut dire que ça va être compliqué à chaque édition comme ça. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il faut aller vers des co-organisations ? Est-ce qu'il faut...
Changer le rythme et passer à 4 ans ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux approches. La première approche, et je l'ai dit ici, ce n'est pas que le Cameroun a des difficultés d'organiser une CAN à 24. Même à 16... il y a un certain nombre de stades, un minimum d'infrastructures qui sont requises. Donc même à 24, il y a eu un retard, il y a un retard de chantier. Ça signifie que ce n'est pas parce qu'on est passé à 24 que le Cameroun n'est pas en mesure d'organiser cette CAN. C'est parce que tous les chantiers qui ont été lancés, je vous donne un exemple. Sur 7 stades qui ont été retenus et visités, il n'y a que 2 stades qui sont prêts au jour d'aujourd'hui. 5 ne le sont pas encore. Il faudrait 1500 chambres, dont minimum 300 chambres par ville, vous ne les avez pas au jour d'aujourd'hui. Les grands stades qui sont en cours de travaux, il y a un qui est à 65% de réalisation, en intégrant bien qu'il y a des conteneurs, des composantes de ces stades qui ne sont pas encore arrivés. Donc ils sont encore dans les bateaux en train de venir de l'Europe, sans oublier les aléas climatiques. Il y a des problèmes des infrastructures routières. Donc les infrastructures routières ne sont pas encore au point. Mais néanmoins, le Cameroun a dégagé une ambition, c'est de le faire. tout a été mis au point. Il y a des moyens colossaux qui ont été mobilisés. Mais il se fait qu'il y a un retard de chantier. C'est un problème de retard de chantier. Ce n'est pas l'incapacité de faire à 24.
Christophe ?
Si on vous suit bien, ça veut dire que même si on était resté à 16 participants, vous auriez retiré la CAN 2019 au Cameroun ?
Mais écoutez, le problème allait se poser en termes, est-ce que le cahier des charges et le chronogramme sont respectés par rapport à la livraison des infrastructures ? C'est tout.
Il y a des questions qui se posent avant qu'on en vienne justement au glissement qui a été annoncé autour des pays participants. Christophe Jousset, on se demandait surtout en vertu de l'article 92 des statuts qui théoriquement définissent ou du règlement qui théoriquement définit la prochaine CAN.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est lire les règlements, les comprendre d'une certaine façon. Vous allez nous dire si c'est la bonne ou pas. Mais puisque le Cameroun n'est plus le pays organisateur, il n'est plus qualifié d'office pour la CAN 2019, est-ce qu'il va être suspendu pour la CAN 2019, voire la suivante ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le règlement ?
Suivant les textes d'ailleurs...
Qui peut le plus, peut le moins ? C'est facile de vous répondre.
D'accord.
Qui peut le plus, peut le moins ?
Ça n'a pas été simple pour le président Hamad vendredi dernier de répondre. Voilà. La question lui a été posée, il a semblé bien embarrassé quand même.
Moi je vous réponds.
Ah ben tant mieux.
Je suis la vôtre autorisée pour vous répondre aujourd'hui.
Formidable.
Donc, j'ai dit qui peut le plus, peut le moins. N'est-ce pas ? Ce n'est pas pour rien que le comité exécutif a estimé que d'ailleurs dans la compétition en cours, le Cameroun est deuxième de son groupe. Il y a deux qualifiés par groupe. Donc dans les cas de figure, le problème ne se pose même pas. Dans le cas de figure, le problème se pose.
On va vous faire entendre quelqu'un de la Fédération comorienne après, parce que le problème se pose.
Si le problème s'était posé, on aurait pu trouver de solution. Soyez rassurés.
Mais justement, vous auriez trouvé une solution pour qualifier le Cameroun à la prochaine CAN.
Puisque le Cameroun, nous avions déjà pris l'adhésion dès le démarrage de la compétition, que le Cameroun puisse jouer tous ses matchs dans un groupe. Et que c'est à la fin qu'on allait décompter si le Cameroun était pays organisateur. Mais comme on ne décompte pas.
D'accord, mais l'article 92 précise bien qu'il doit être disqualifié, puisqu'il n'organise pas.
La prochaine CAN.
Voilà. Suspension. Donc là, vous allez appliquer
sans tenir compte de l'édition concernée.
Non, je l'ai bien dit ici. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Je l'ai bien dit ici. Qui paie le plus, paie le moins. Le règlement a été adopté par le comité exécutif. C'est le comité exécutif qui l'applique. On n'a pas appliqué le volet sanction tout simplement parce que nous avons tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Un pays qui mobilise des moyens colossaux, mais malheureusement il y a des aléas liés aux états d'avancement des chantiers, on ne peut pas le punir deux fois. Déjà le retrait.
Donc les Camerounais est qualifié, c'est ça.
Le qualifié, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est qualifié.
Si les Comores viennent gagner au Cameroun lors de la dernière journée en mars,
alors justement on va entendre, parce qu'on l'a reçu.
Si le Comore gagne, le résultat va jouer.
On va l'entendre, Saadi Benamir, qui est le manager général de cette équipe des Comores.
Si je l'avais devant moi, déjà d'une part, je le féliciterais d'avoir en si peu de temps mené
des changements
qui permettent aux petites fédérations comme les nôtres de pouvoir jouer cette CAN. Mais je demanderais aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous préciser justement ce point du règlement qui nous permette justement aujourd'hui de préparer sereinement cette rencontre du mois de mars, ou en tout cas d'être fixé et de sortir de ce flou où on se trouve.
C'est-à-dire, est-ce que le Cameroun est exclu ou pas de la prochaine CAN, c'est ça ?
Tout à fait, c'est exactement ça.
C'était Saadi Benamir qui s'adressait hypothétiquement à Monsieur Hamad. Alors la question va vers vous,
le
bien
Cameroun
sûr.
Le Cameroun n'est pas exclu
automatiquement.
Si le Cameroun est battu chez lui par les Comores et qu'il termine troisième, le Cameroun n'ira pas à la CAN. Ce sont les Comores qui iront, puisque les Comores seront deuxième.
Mais là, les résultats vont jouer.
Mais Monsieur Omari, à chaque fois quand même, par exemple le Maroc, quand il avait été exclu au dernier moment en 2015, alors qu'ils étaient déjà qualifiés, qu'ils avaient automatiquement en tant que pays organisateur, n'étaient pas allés en Guinée équatoriale. Il y a eu des exemples récents avec cette CAN, qui est passé, vous étiez venu d'ailleurs nous l'expliquer dans Radio Foot, du Kenya au Maroc. Pareil, le Kenya n'a pas disputé la compétition. Madagascar, sur la Coupe du Monde des Jeunes, a dû aussi oublier la compétition, alors que ces pays étaient qualifiés automatiquement. Là, par exemple, si c'était en Afrique du Sud, le Cameroun irait.
Mais Annie, le Cameroun est deuxième de son groupe.
Pour l'instant,
il est deuxième de son groupe. Il a un dernier match qui joue contre le Comore à domicile. Ils savent qu'ils ne vont pas organiser la CAN 2019.
Qu'il faut donc se qualifier sur le terrain.
Ils doivent se qualifier sur le terrain. il n'y a pas une part belle qui est faite pour dire que vous devez vous gagner sur tapis vert ou bien par décision.
Non, la seule part belle, c'est qu'on oublie l'exclusion. C'est ce qui a été dit.
On oublie l'exclusion. Et le pays qualifié automatiquement, alors si hypothétiquement c'était l'Afrique du Sud, on risque d'avoir un pays en trop?
S'il vous plaît.
Non, parce que l'Afrique du Sud est qualifiée.
Elle est qualifiée aussi. Donc en fait...
Tous ces cas de figure ont été quand même examinés.
Il y a eu le cas de la Sierra Leone également dans un autre groupe où...
Sierra Leone, vous savez qu'elle est sanctionnée.
Oui, elle est sanctionnée. Vous avez annoncé que la Sierra Leone était disqualifiée dans son groupe. Maintenant, on se retrouve avec un classement premier Kenya, deuxième Ghana. Est-ce que le Kenya et le Ghana sont d'ores et déjà qualifié pour la CAN 2019?
Ben, il faudrait d'abord que nous sachions. Dans le cas de figure d'une sélection nationale qui est disqualifiée, mais que, initialement, ce n'était pas par le fait de la CAF, c'est-à-dire que nous n'avons pas intégré cela dans les calculs pour voir les probabilités de pays à qualifier ou pas. Si ce quota-là était déjà pris en compte... Le deuxième sera qualifié, ça ne pose aucun problème.
Donc ils sont qualifiés.
Ouais. Donc Kenya et Ghana sont qualifiés.
Logiquement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se mentir, le Congo a fait acte de candidature, c'est bien, mais on sait qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse l'organiser. Parce que si le Cameroun n'a pas réussi à l'organiser avec 4 ans, je ne vois pas comment le Congo, en 6 mois, parce que là on parle
ils
de 6 mois.
Ils ont organisé les Jeux africains il n'y a pas longtemps, c'est des infrastructures qu'ils veulent valoriser. Non, non, bien sûr.
Donc,
mais c'est pour ça qu'ils seront candidats.
Je peux tout à fait comprendre que le Congo ait des ambitions footballistiques. C'est très bien pour eux, mais aujourd'hui, il y a très peu de pays qui sont capables d'organiser une CAN en 6 mois. Et 6 mois, ça veut dire aller vite, avoir les infrastructures, c'est une chose, et on le disait précédemment avant que vous n'arriviez, c'est non seulement ça, mais c'est tout le reste. Une organisation, c'est pas simple. Même au Maroc, par exemple, Casablanca, c'est un stade qui doit être un petit peu retapé. Et puis après, il faut mettre en place un COCAN, etc., etc. Et tout ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, en gros, il n'y a plus que 2 pays qui peuvent organiser, sachant que l'Égypte a décidé de ne pas se retirer.
De toutes les façons, ce n'est pas à la CAF d'obliger 1, 2, 3, 4, même 5 candidatures, de susciter cela. Une décision a été prise, c'est à chaque pays d'évaluer ses ambitions avec ses infrastructures pour pouvoir introduire sa candidature.
Et s'il n'y avait aucun candidat satisfaisant, qu'est-ce qu'on fait? On annule la CAN?
Ben, c'est un cas, nous allons l'examiner quand il va se poser. S'il n'y en a pas, ben, écoutez, ça serait un cas de force majeure.
Mais on se souvient qu'avec l'histoire d'Ebola au Maroc, 2015. Finalement, le président Ayatou à l'époque était allé demander à la Guinée équatoriale qui avait organisé en 2 mois, en gros, ça s'était passé.
En 62 jours.
En 2 mois.
Mais voilà, je pense que vous comprenez. Nous avons décidé de quitter le mode d'urgence pour fonctionner en mode prévision.
Bon, là, c'était un cas un peu particulier. Quand même, sur cette histoire d'Ebola, c'était un cas un peu particulier.
Donc, je voudrais vous dire ceci. Je ne reviens pas sur ce cas-là d'Ebola. J'ai dit ceci. Nous nous sommes instruits, nous tous, de tous ces précédents, pour quitter le mode d'urgence et fonctionner en mode prévisionnel.
Non, mais ça, je peux
ça dire. Signifie quand on vous octroie une CAN aujourd'hui et que vous vous engagez à l'organiser, prenez le temps qu'il faudrait et que tous les cahiers des charges en fonction du chronogramme soit respecté.
Alors justement, en mode prévisionnel, Olivier Pron, on se retrouve maintenant, ça a été décidé apparemment par le COMEX, que la CAN 2021 était attribuée au Cameroun et 2023 à la Côte d'Ivoire.
D'ailleurs, je reviens 8 jours en arrière, on était ensemble l'un à côté de l'autre au moment du point presse du président Hamad.
Vous connaissez bien.
On ne se quitte plus.
Je connais tout le monde, vous êtes
beaucoup plus chaud à Accra qu'il ne fait à Paris aujourd'hui. Sans vous, ça n'aurait pas été si clair. Et d'ailleurs, le président Hamad a mis 3 jours avant de le confirmer. Dans son allocution, et j'en sais quelque chose, puisque c'est la première question qui lui a été posée, 2 fois je lui ai demandé de préciser si on glissait 2021 et 2023. Il n'a pas été capable de répondre, et c'est vous qui, d'un clin d'œil, et en hochant la tête, m'avez confirmé que l'idée était bien de faire 2021 Cameroun, 2023 Côte d'Ivoire, pardon. La Guinée, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que c'était eux qui étaient prévus. 3 jours plus tard, le président Hamad le confirme officiellement. Ce qui était dit par vous un peu sous le manteau, caché, mais en aucun cas clairement par le président Hamad, est devenu très très clair 3 jours plus tard. Qu'est-ce qui fait que...
Voilà, je vais vous dire
clairement. C'est une compensation qui a été décidée en 3 jours.
Non, je vais vous dire clairement.
Pour consoler les Camerounais.
Je voudrais vous dire clairement. Il y a ça qui s'est fait sur la table. Les négociations sont faites en dessous de la table, les accords se signent sur la table. Même quand nous étions là, il y avait déjà des contacts.
Alors justement, vous permettez.
Ouais. Par des canaux, on avait des contacts officieux avec les deux pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Ça signifie que à partir du moment où nous n'avions pas encore reçu le répondant de la Côte d'Ivoire, le président Ahmad n'était chargé que d'annoncer la décision.
D'accord.
Et la nuit même, pour votre information, s'il vous plaît.
Oh oui.
La nuit même, nous avons, dès que nous avons reçu la confirmation du côté du Cameroun, le président Ahmad a signé une lettre adressée au chef de l'État camerounais pour confirmer qu'ils avaient la CAN 2021.
Alors je poursuis.
24 heures après, nous avons reçu le retour de la Côte d'Ivoire et le dimanche, au courant de la journée, la lettre a été adressée à la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous posiez la question, il était tout à fait normal, en responsable. Il ne veut pas se permettre de répondre.
Deux questions rapides.
Voilà.
Il a été dit que le président Ahmad avait, avant son allocution, prévenu le directeur de cabinet de Paul Biya et le directeur du cabinet de Alassane Ouattara. Vrai ou pas vrai?
Je voudrais vous dire quelque chose.
Ah, c'est un sourire.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, moi, j'ai pas ma langue dans la poche. Hein. J'ai pas ma langue dans la poche.
C'est pour ça que je vous pose des questions.
Le directeur de cabinet de la maison civile, le président Paul Biya, le président Ahmad l'a téléphoné à ma présence pour l'informer. Parce que par respect au président Paul Biya, qu'il a reçu en toute fraternité une bonne audience, tout ça là, le président Ahmad l'a appelé pour l'informer qu'on ne peut pas rendre publique cette décision avant que ne vous réserviez la primeur. Je vous charge d'informer son Excellence, Monsieur le Président, que le comité exécutif vient de prendre la décision et que, d'un moment à l'autre, à partir du moment où vous êtes informé, nous allons la rendre publique. Et c'était une décision du comité exécutif de ne pas embarrasser le président Paul Biya. D'abord de l'informer officieusement avant de rendre officiellement la décision.
C'est pour les Ivoiriens. Et pour les Ivoiriens.
Pour les Ivoiriens, je vous ai bien dit qu'il y a des contacts qui étaient en cours.
Ils nient. Depuis une semaine,
écoutez,
que ce soit du côté de la FIF ou du côté
On peut écouter le ministre des Sports.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je ne suis pas venu ici pour dévoiler les différents canaux par lesquels nous communiquons avec
la
tous
FIF
les États. Vous permettez, je ne suis pas venu ici pour vous donner les différents canaux par lesquels nous communiquons avec les autorités africaines. Alors, qu'ils le nient, c'est leur droit de le nier parce qu'ils n'ont pas été informés.
Nous, on est le contraire. Hein.
Mais nous savons que nous avons des canaux par lesquels nous sommes en train de communiquer.
Donc on a bien fait de dire qu'il y avait eu contact avant.
Monsieur Omari, on peut dire Guinée 2025 alors, puisque vous avez fait glisser les deux premières organisations qui peut-être vont être acceptées. Et la Guinée, on n'en parle pas.
Je voudrais même vous répondre sans même que vous terminiez votre question. Nous avons demandé au secrétariat général...
Par vos canaux?
Non, au secrétariat général de la CAF de nous sortir le dossier de la Guinée. Nous attendons qu'il le sorte. C'est pour vous dire que nous ne voulons pas revenir sur le mode par lequel cette canne a été attribuée à la Guinée. Nous avons demandé qu'on nous présente tous les dossiers.
En fonction du dossier,
nous allons le décider.
Parce que vous venez de dire, on imagine en Côte d'Ivoire l'ambiance qui va régner.
Il y a une question que je me pose quand même sur tout ce que vous venez de dire. Pour 2019, donc dans 6 mois, il y a une procédure des candidatures en bonne et due forme qui est lancée. Mais pour 2021, il n'y a pas de procédure des candidatures. Il y a un pays organisateur qui est désigné d'office, le Cameroun.
Et 2023, pareil.
C'est tout à fait normal et indiqué. Je l'ai dit et je le répète ici. Et je le confirme. Le Cameroun n'est pas incapable d'organiser la CAN à 24. Le Cameroun a un retard de chantier. Nous avons évalué les travaux qui nous ont été présentés, qui sont des travaux liés à la CAN de 24 équipes. Nous avons estimé que c'est un retard lié au calendrier, en fonction de ce retard au calendrier, et en intégrant que c'est le premier pays qui a mobilisé les moyens, et puis l'implication, la garantie que le chef de l'État avait donnée, qu'ils étaient en mesure de l'organiser, en tenant compte aussi de ce que représente le pays, le Cameroun, sur le plan footballistique africain. Nous avons estimé, au lieu de les léser en disant que nous retirons pour réouvrir encore une nouvelle candidature, une appel à candidature, on leur confie parce que nous sommes sûrs, en fonction, quand vous avez des stades qui sont réalisés à 65%, d'autres à 80%, d'autres des hôtels réalisés à 30-45%.
Et on espère tous que les travaux vont continuer.
Ils vont continuer, puisqu'ils en ont pris l'engagement.
Et quelle a été la réaction du président camerounais, puisque vous lui avez parlé avant d'annoncer la décision?
Directeur de cabinet civil.
Directeur du cabinet, et après,
ça,
évidemment...
Ça, je ne peux pas dévoiler ici. je ne peux pas dévoiler ici sur les micros des RFI.
Christophe Jousset.
Par rapport à nos auditeurs ivoiriens qui attendent des réponses précises aussi, ils découvrent que donc finalement, toujours la CAF maintient qu'elle a eu des contacts avec...
Alors à l'encontre du communiqué
avec la FIF. Voilà. La FIF, ça c'est répondu, d'accord. Par contre, je pense qu'ils se demandent toujours...
J'ai parlé des canaux.
Des canaux. Mmh. Voilà. Je pense que nos auditeurs en Côte d'Ivoire se demandent toujours comment la CAF peut constater un retard dans les travaux à 2 ans et demi de la phase finale.
Cher ami, voilà. Vous parlez d'un ingénieur civil. Je vous informe. Monsieur Omari est ingénieur civil en construction, spécialisé en construction ferroviaire. Un stade ne se construit pas en 2 ans. Ne nous leurrons pas. Un stade, 80 000 places ou 70 000, ce n'est pas en 2 ans que vous le faites. Allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vérifiez le grand stade. Il est à quel niveau d'avancement des travaux ? Qu'on se le dise.
Tout en bas.
Parce que moi j'aime bien que les gens parlent parce que c'est émotionnel. Parce que c'est deux, les hôtels. Quand vous lisez la carte, le cahier des charges de la CAF, refuse les types de motels en termes de villas, ainsi de suite. Il faut des hôtels. N'est-ce pas ? L'infrastructure routière ne fait pas défaut à la Côte d'Ivoire. Mais il y a des choses sur lesquelles ils sont en retard par rapport à s'ils devaient organiser 2021. Ce n'est pas en 2 ans qu'ils devaient le réaliser, qu'ils allaient le réaliser. Qu'on ne se leurre pas. Maintenant, s'il vous plaît. Maintenant que la CAF vous dit, je voudrais être pragmatique et regarder les gens en face pour leur dire, faites ce travail, quittez le mode d'urgence et l'à peu près. Parce que dans tout ce que nous faisons, la quintessence, c'est quoi ? C'est la valorisation de cette compétition. Il n'est quand même pas normal aujourd'hui si la Confédération asiatique peut vendre le droit de sa grande compétition, de ses compétitions à 1,6 milliard, que nous puissions en reste nous contenter d'$1 milliard. Ça signifie que nous visons aussi sur le plan financier le développement du football africain. Il faut valoriser. L'Afrique doit avoir des ambitions. L'Afrique ne peut pas rester en reste en disant qu'écoutez, on ne peut pas, on fait, ainsi de suite.
Alors justement, les ambitions. Cette CAN à 24, elle a été décidée il y a un petit peu plus d'un an. Il nous reste peu de temps, mais j'aurais une question. Comment va se faire cette organisation ? Est-ce que vous avez déjà, calculé combien il y aurait de groupes ? Sous quelle formule, finalement, se passe une CAN à 24 ? Quel que soit le pays.
Est-ce qu'il y aura des huitièmes de finale ? Enfin bref, vous avez compris.
De toutes les façons, il y a des formules, madame. Je ne pense pas que nous puissions passer à 8 mois que nous ne sachions pas comment ça va s'organiser.
Ah non, mais nous, on le sait pas.
Vous avez la latitude d'approcher le secrétaire général, le secrétaire chargé adjoint chargé du football de la CAF, qui a toutes les données, il peut vous les donner. Ça, c'est...
Donc on peut appeler Anthony Bafo de votre part.
Ouverte auprès de la Confédération africaine de football.
On peut appeler Anthony Bafo, il saura nous expliquer.
Il va vous donner les différents groupes, ainsi de suite.
Et les dates peuvent évoluer en fonction du pays qui sera finalement choisi. Est-ce qu'on va rester sur 15 juin, 13 juillet, quoi qu'il arrive ?
Mais nous sommes sur les dates qui ont été bien déterminées. N'oubliez pas qu'il y a aussi un aspect marketing et commercial. Nous avons nos partenaires. Les partenaires ne peuvent pas fonctionner en mode... d'urgence glissant. Les partenaires doivent se rassurer que c'est de telle période à telle période.
Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des huitièmes de finale prévus ou c'est vraiment Anthony Bafo qui gère ce volet-là ?
Je voudrais que vous vous adressiez à Anthony Bafo.
Ah bon, on va le faire.
Voilà.
Vous avez parlé de la Guinée. On a l'impression que finalement la Guinée, la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée, ça semble s'éloigner. Est-ce que c'est votre sentiment ? Parce que vous dites on va revoir leur dossier. Déjà, comment ça a été attribué d'une certaine manière ? Et quel est le dossier
J'ai bien dit ici et je le précise. Nous avons demandé au secrétariat général de nous ressortir ce dossier. Parce que dans les archives, ce dossier n'existe pas. Il y a une attribution, mais les dossiers de fonds n'existent pas.
Ah, d'accord. Ah,
Nous avions demandé au secrétariat général de nous sortir le dossier de fonds et nous allons examiner.
Mais alors, s'il n'existe pas, il ne va pas vous sortir grand-chose.
Écoutez, nous allons nous contenter de ce qui va nous ressortir.
Donc la Guinée a été désignée sans même avoir fait acte de candidature ?
Je ne voudrais pas me mettre à juger l'ancienne gouvernance. Nous sommes en train de tabler sur le présent et le futur.
Donc, sur 2023, le futur, c'est cette CAN 2019. On sait que la CAF avec son ancien président avait signé un contrat au long cours avec Lagardère Sport pour tout ce qui concernait les droits des compétitions jusqu'en 2028. Monsieur Hamad n'avait pas beaucoup apprécié ces contrats de si longue durée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez avancé dans vos discussions avec Lagardère Sport pour le renégocier, voire pour le raccourcir ou pour relancer un appel à candidature?
Voilà, je suis bien aise de vous parler de ce dossier que je ne voudrais pas évoquer ici parce que le comité exécutif n'a pas encore la teneur de conclusion des négociations en cours. Mais seulement je vous informe que c'est moi qui conduis la délégation de la CAF sur les négociations de révision, de requalification de ce contrat avec Lagardère. Et j'attends, je n'entends pas venir ici faire l'étalage d'état d'avancement de ces travaux avant d'avoir fait mon rapport au niveau du comité exécutif. Mais je vous rassure que nous sommes en pleine négociation avec Lagardère. Et d'ailleurs, ça fait, je crois, presque 8 mois que nous avons démarré ces négociations. Et les choses sont en cours d'évolution.
Christophe Jousset ?
Vous étiez très occupé avec le dossier de la CAN 2019 et autres, mais on n'a pas entendu la CAF réagir à la condamnation d'Issa Hayatou et Hicham El Amrani par un tribunal économique égyptien à 24,5 millions de dollars d'amende chacun pour infraction aux règles de la concurrence. Ça vise le contrat qui est en cours entre la CAF et Lagardère pour la période 2017-2028. Est-ce que vous avez une réaction ?
Condamnation personnelle hein, et pas au titre de la CAF.
Vous me posez la question à titre personnel ou vous me posez la question en tant que deuxième vice-président de la Confédération ?
Non, la condamnation, était personnelle.
Mm-hmm. Non, je voudrais vous dire une chose, c'est que nous, depuis que le président Hamad a été élu, et si vous avez observé, nous avons fait le maximum pour ne pas parler du président Issa Hayatou. Pourquoi ? Le président Issa Hayatou, c'est un grand homme. On peut tout raconter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour le football africain. C'est un grand homme qui a dirigé pendant 28 ans, dans un environnement donné, dans des circonstances données, qui a sorti le football africain, l'a mené au niveau où il se situe, et nous l'avons trouvé. C'est un aîné pour nous.
Mais justement, vous trouvez la condamnation scandaleuse ?
Vous permettez, s'il vous plaît. C'est un aîné pour nous. À partir de ce moment-là, nous lui devons du respect, et si nous avons à discuter ou à émettre un avis, nous savons comment émettre cet avis-là. Ce n'est pas dans les voies des médias que nous allons émettre ce genre d'avis. Nous le respectons, c'est un grand homme, c'est un aîné, qui a eu à diriger, nous tous nous avons travaillé avec lui. Aujourd'hui, par un jeu démocratique, la gouvernance a changé. Il ne nous appartient pas de commencer à venir. J'ai appris qu'ils ont interjecté appel. Nous attendons. La CAF est en train d'observer cette situation. Et si elle est concernée, elle saura comment réagir. De toutes les façons, les différentes autorités égyptiennes savent ce que la CAF pense de ce dossier-là.
C'est déjà la fin de Radio Foot International. Merci beaucoup, Monsieur Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, d'être venu dans Radio Foot International nous apporter beaucoup d'éclairages et d'explications autour de la décision de ne pas confier la prochaine CAN au Cameroun, mais par contre d'être à la recherche effectivement d'un pays hôte qui pourra accueillir cette compétition à 24. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir contribué à cette émission. C'est la fin de la semaine et on se donne évidemment rendez-vous lundi prochain dans Radio Foot International. Merci à tous.